a d'abord été traduit par Moïse Rosenbaumas lui-même, puis a été repris par sa fille Isabelle au fil d'un dialogue qui a parfois étoffé le récit initial. Né en 1922 dans une bourgade de Lituanie, Moïse Rosenbaumas raconte la vie de cette société pauvre et laborieuse à la veille de sa destruction. L'auteur évoque les métiers qui avaient à leur cours, les plats de misère et les jours de fête, le climat rude et les jeux d'enfants, glisser sur le lac glacé avec un seul patin et voler des pommes dans les vergers les plus difficiles d'accès. Tandis que le père de Moïse abandonne sa famille après une faillite causée par la crise mondiale, le petit garçon commence à travailler à l'âge de 10 ans, puis devient tailleur. La guerre éclate et l'adolescent s'enfuit après avoir tenté de convaincre sa mère et ses frères de le suivre. Ils seront tous assassinés avec les autres juifs lituaniens entre juillet et décembre 1941. Au cours de son périple, Moïse est interné avec d'autres Russes dans un kolkhoz d'Ouzbékistan où il subit le travail forcé et la faim. Il parvient à s'extraire de cet enfer et s'engage dans l'armée rouge où il sera éclaireur. Décoré comme soldat, il devient cadre du régime soviétique jusqu'à ce que sa conscience et surtout sa femme l'incitent à sortir de cet enlisement dans le système. En 1957, il rejoint ainsi son père en France qu'il n'avait pas vu depuis près de 30 ans. Moïse s'est éteint le 1er novembre dernier. Ihr habt sich verliebt in ein Jüngel, ein Schein, um nach Ken zu ihm nicht kommen.
Une grande partie des Juifs de Lituanie a été exterminée. D'après les historiens, 95% de cette population a été éradiquée. Les survivants se sont organisés en sociétés d'originaires, portant le nom de la ville où ils vivaient avant-guerre. Souvent, ils ont contribué à des ouvrages commémoratifs, les Isker Bicher, livres de la mémoire sur leur ville ou leur région. Tous ces livres ont été édités après l'Holocauste à la mémoire des communautés disparues. Les rédacteurs y décrivent leur passé, l'histoire de leur famille disparue, et publient des photos anciennes. Ils y glorifient la pureté, la moralité et surtout la piété des hommes et des femmes qui vivaient là. La plupart de ces ouvrages ont paru en Israël et en Amérique. Les auteurs, les survivants ou leurs familles informent habituellement les anciens originaires et leurs descendants susceptibles d'être intéressés par l'achat d'un exemplaire. C'est ainsi que j'ai acquis le Iskerbuch de la ville de Telz. Les auteurs se sont efforcés de souligner les aspects les plus dignes d'éloge de la vie de Telz. La piété de la plus grande partie de ses habitants juifs était une chose remarquable. Et elle pouvait à cet égard se mesurer aux autres villes de Lituanie. Je l'ai écrit plus haut, et je le répète à nouveau. Comme de nombreuses bourgades de Lituanie, Ponevez ou Slabotke, et d'autres encore, Telz avait sa part de sainteté. Mais à y regarder de plus près si l'on veut vraiment être objectif, il faut reconnaître qu'à côté des religieux, les athées constituaient malgré tout une bonne moitié de la population. À Telz, ils se gardaient bien de provoquer les religieux et s'abstenaient de travailler, de fumer en public ou de circuler en vélo les jours de Shabbat. La voiture n'avait pas encore fait son apparition. Cet aspect est très peu développé dans le Iskerbourg de Telz. Celui-ci omet également d'évoquer la pauvreté et la misère qui sévissaient. Une partie de la population vivait dans des conditions dramatiques. Beaucoup habitaient dans des caves ou des logements en sous-sol. À la merci du froid saisissant de l'hiver, dans une chaleur étouffante l'été, sans électricité, ils ne pouvaient accéder à la lumière du jour que par une lucarne percée en haut d'un mur de terre. Pour apercevoir le ciel et le soleil, il leur fallait lever les yeux et regarder là-haut. Les sols étaient de terre battue. Pour toute nourriture, ils n'avaient qu'un morceau de pain noir et un peu de sucre en poudre à se mettre sous la dent. Ils éclairaient la pièce. Ces habitations n'avaient la plupart du temps qu'une unique pièce, avec une minuscule lampe à kérosène et un poêle qui chauffait très mal, servaient aussi à cuire la soupe. Ils étaient vêtus misérablement, et parfois même en guenilles. Dans cette partie paupérisée de la société, on trouvait des gens très pieux, des athées, et mêlés à eux des non-juifs. C'était une catégorie de la population qui formait les rangs du lumpenprolétariat. Éloigné de la prise de conscience révolutionnaire qui avait gagné les ouvriers des villes et des bourgades, et survivant grâce à de petits travaux journaliers. Je crois que chaque famille de Tels était en relation plus ou moins proche avec des habitants qui vivaient dans cette terrible condition. Il est important de savoir la vérité sur tous les aspects de notre histoire, les meilleurs comme les plus tristes. Il s'agit là du revers de la médaille. J'ai moi-même visité certaines de ces caves, goûté au pain noir saupoudré de sucre. Il doit bien rester quelques survivants de cette période qui vivent maintenant dans un monde complètement différent et dans un autre pays, qui connaissent la société de consommation, mais se souviennent sans doute de leurs souffrances d'antan. On n'a pas suffisamment décrit les gens du peuple, les artisans, les charretiers qui s'efforçaient de gagner leur pain quotidien en s'échinant pour survivre au jour le jour et ne mangeaient pas à leur faim. Ce tel cela existait aussi. Il ne faut pas se bercer d'illusions. Les habitants de la ville n'appartenaient pas tous à la crème de la société. Et la population ne descendait pas tout entière de l'aristocratie, de l'élite religieuse ou intellectuelle. Il n'y a aucune raison d'avoir honte de sa ville et ne considérer qu'une partie de sa population. Bien au contraire, notre histoire ne sortirait pas grandie d'une représentation idéalisée. En réalité, tout le monde se connaissait, car nous habitions, somme toute, une assez petite ville. À mes yeux, c'est lui rendre un hommage, ainsi qu'à ses habitants, que de voir tel sous ses véritables traits, et de nous souvenir ce que nous avons vraiment été, sans rien laisser dans l'ombre, quand bien même cela nous semble aujourd'hui très éloigné de ce que nous sommes. La vie des plus pauvres n'est pas moins digne du souvenir et de la mémoire de celle des grandes lignées, et c'est une part de l'histoire de nos familles qui ne doit pas disparaître. Les affaires de mon père marchaient très bien, mais ce n'était pas encore cette fois-là qu'il devait devenir riche. Le ciel s'obscurcissait. Un nuage noir nous arrivait de l'autre côté de l'Atlantique. La crise mondiale nous atteignait à notre tour dans notre petite ville lituanienne, comme un ouragan qui balaye tout sur son passage. Lorsque la brusque chute des chiffres d'affaires commença à se faire sentir, mon père fut obligé de vendre le deuxième magasin et le cheval, afin de survivre à l'inflation. À Tels, il n'y avait pas besoin de ce cheval, car le magasin se trouvait à deux pas de la maison. Mais malgré ces mesures, il fallut encore limiter notre train de vie, afin de diminuer les dépenses. Ces sacrifices ne permettaient toujours pas de faire face aux frais ni de payer les traites. La banque refusait d'accorder les facilités qu'elle avait consenties quand les affaires marchaient bien. En un mot, tout s'envolait. Tout était emporté. Pris dans cette première tourmente, nous ne soupçonnions pas que ce qui surviendrait après la crise économique mondiale serait pire encore. Ce n'était pas comme aujourd'hui, où l'entrepreneur peut déposer son bilan et se déclarer en cessation de paiement sans se déclarer en faillite, et puis créer parfois une autre société et reprendre ses activités. À l'époque, dans une petite ville comme Tels, cela s'appelait une banqueroute, et la victime de la faillite recevait à vie le surnom de Bankrotchnik. C'était là un sobriquet honteux qui vous stigmatisait jusqu'à la fin de vos jours. De plus, la victime était jugée coupable et poursuivie en justice. Mon père, qui voyait ce qu'il avait construit, s'effondrer sous ses pas et la faire partir à volo, sauva tout ce qu'il pouvait. Il cacha du tissu chez les paysans, boucla ses valises et gagna précipitamment Paris, où il avait une sœur.
Dort, wo großen Sehnen Nasser steht der Kränze vertracht, gehen Mädler ziehen Wasser wie die Ämmer alle Nacht. Gehen Mädler ziehen Wasser wie die Ämmer alle Nacht. Person wie weiße Bären wachsen täglich in großen Sort. Und von weitem Schein von Sternen tanzen Jatten in Arot. Und von weitem Schein von Sternen tanzen Jatten in Arot. Von die Steppes Windler blosen und a Feierulder brennt, gehen Mädlech auf die Großen mit die Äler in die Hand. Gehen Mädlech auf die Großen mit die Äler in die Hand. Wertle wohne blass und blasser, geht's beugt men in der Nacht. Dort wo großen Sehnen nasser, steht a kleine Zeffertacht. Dort wo großen Sehnen nasser, steht a kleine Zeffertacht. Dort wo großen Sehnen nasser, steht a kleine Zeffertacht.
Ich will nur unterstreichen, die meisten Menschen, welche haben geschrieben wegen Tells, haben gelegt dem Trop und angewiesen auf die gute Seiten von Tells, mit was Tage die Stadt hat die Känstel zieren und überhaupt die Frumkeit von Stadt und von ihren Menschen. So ich sehe Kolaka Wodeich. Wegen dem habe ich sein Hecher geschrieben. Aber ich will unterstreichen, als man darf kennen und erkennen, als Tells ist Tage gewinn auf frumme Stadt, also wie Ponewes oder andere Städte und Städtlach in Lito. Aber als man guckt sich zu und als man will sein Objektiv, kann man fast vorstellen, als seinen gewinn frumme Menschen, halb frumme oder in ganz nicht kein frumme. Ich habe sich sehr wenig aufgestellt wegen Aspekt von dem Teil von Tells der Bevölkerung, welche haben gelebt in sehr schweren Bedingungen und in Nöte. Viele haben gelebt in Kellern und nur gehabt ein kleines Fenster zu sehen, die Licht vom Himmel. Und die Dielen seinen gewinnt bleich von Erde und gegessen nur ein Stückel schwarze Brot besotten mit Dienerzucker. Kein Elektro haben sie noch keinmal nicht gehabt und sie beleuchten mit einem kleinen Lämperle. Nicht geheizt oder knapp geheizt und sehr schlecht angetan. Zu wissen, der Teil von Bevölkerung, der dann gewinnt frumme, halb frumme und nicht kein frumme. Und ich halte, dass jeder einer heute kennt als eine Familie, als eine Familie. Das ist wichtig, mir darf man auch das wissen. Und das ist die zweite halbe von dem Adbeie. Als eine Keller habe ich besucht, und versucht, sehr schwarze Brot besorgen mit ihnen Zucker. Ich meine, als man darf das nicht verleugnen und dermonen. Und es seien noch da leben gebliebene. Und sie haben das gewiss nicht vergessen. Auch viele als Heint leben sie in einer anderen Welt. Man hat nicht genug beschrieben, dem einfachen Menschen, der alle Balmaloches, was nicht alle haben gegessen, zu satt alle Tag. Die Furmanes und alle übrigen einfachen Menschen, was pflegen suchen zu verdienen, auf dem Tag durchzuleben. Also Tells hat auch existiert. Ich meine, als man darf sein objektiv und sich nicht einreden, als wir stammen von adeldicken Stamm und gehören zu den Smetenen von Stott oder gar mehr Willen sehen, ein Teil von Stott. Das gibt keinem nicht zu keinem Covid. Und wir alle kennen sich von daheim. Zum Verändern mit der Frage, sage ich, als wir dürfen sich nicht zusammen mit unserer Stadt, aber man darf ihr sehen, als wie sie es gewinnen und als wie wir seinen gewinnen. Das hat gar nicht getan, wie wir seinen Heint. Jeder hat durchgemacht seinen Weg, wer zum Guten und wer zum Schlechten. Der Leben ist also. Die Geschäfte bei meinem Vater sind gegangen gut. aber nicht demal wird wieder reich. Es sind angekommen schwarze Wolken. Das heißt der Weltkrisis und auch in Teilen ist das gegangen. Zum ersten hat man vermacht dem zweiten Geschäft. Man hat verkauft dem Pferd, weil man hat sie nicht gedarft reiten in die zweite Städte. Und das zweite Geschäft ist Gewinn. Aber das ist nicht Gewinn genug. Man hat gemusst verkleinern die Ausgaben. Und das ist noch auch nicht Gewinn genug. Die Wechseln kommen zurück vom Bank, weil der Bank hat nicht gewollt vorlegen. Das Geld, wie früher, in die guten Zeiten. Mit einem Wort, sie ist Gewinn schlecht. Das ist nicht wie heint. Man ruft das Deponieren den Bilon. Und fertig. Man macht eine zweite Gesellschaft und man fort weiter. Aber einmal in einer kleinen Stadt hat man das gerufen bankrott. Und das ist eigentlich der richtige Nomen. Der Mensch, was schlägt, machen bankrott, hat man gerufen bankrottig. Und das ist gewinn Assande. Man hat gekrogen zum Zunehmen bankrottig. Das bleibt sein auf dem ganzen Leben. Und zudem macht man eine Anklage im Gericht. Mein Vater, sehen Sie, als alles geht zum Teufel, hat er geraten wird, was er hat, was es hat sich gelöst. Mein Vater hat rausgeführt, ein bisschen Stoffen bei die Päuerin und allein gemacht seine Valise und er wege von in Paris. In Paris hat er gehabt eine Schwester.
Komm schon zu mir, geh, ich warte auf dich schon lang. Komm schon, geh, herüber, das soll nicht hören, dein Gang. Führ ich dich ins Stiebele von mein Mann nur allein. Großen Kalle will mir sein und zu der Chuppe gehen. Verbracht die Zeit, dass keiner soll nicht sein. Spielst du mir dem neuen Scherus, ist er rausgekommen. Ich hab sich verliebt in eine Jünger, der Scheine. Und ich kenn zu ihm nicht